Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce podcast Philomédia à propos de Ruven Ogien. Ruven Ogien, gigantesque philosophe français contemporain, décédé il y a quelques années. Alors, pour la petite histoire, c'est un podcast que j'ai envie de réaliser depuis plusieurs mois. Je suis heureux d'enfin prendre le temps de vous présenter une introduction à la pensée de Ruven Ogien sur notamment son éthique minimale et la question des paniques morales. Vous allez voir que ce sont des concepts très très actuels, c'est une pensée qui n'a pas vieilli. Et je vous invite, si vous avez envie d'approfondir les notions que je vais développer ici, à retrouver des articles sur le sujet, dont l'article podcasté ici, et je mettrai les liens dans la description. Alors, dans plusieurs articles que j'ai consacrés à la philosophie morale, j'ai précédemment développé des notions comme la bienveillance, le souci, l'attention pour autrui ou encore le soin de l'autre. C'est ce qu'on pourrait appeler une éthique dite du care. Care, prendre soin d'eux. Et dans un virage à 180 degrés, je souhaite partager aujourd'hui un argumentaire sur le côté potentiellement contre-productif d'un tel positionnement éthique. Et c'est ça qui correspond à une éthique dite minimale, l'éthique de Ruven Ogien. La philo d'Ogien, c'est un peu l'idée que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et si, au final, le vrai bien, c'était de ne pas nuire à autrui et rien de plus. Alors avant de développer cela, j'aimerais poursuivre un petit avant-propos concernant Ogien et vous parler de ses essais. Alors ses essais, ses livres, sont des ouvrages vraiment très très abordables. Ils sont particulièrement abordables tout en étant rigoureux et clairs. Donc sur la forme, dans le style, Ogien, c'est quelqu'un qui écrit pour être compris. Et on sent qu'il a un véritable souci didactique qui fait vraiment du bien à la philosophie. Son style, il est limpide, contrairement à certains philosophes continentaux qui camouflent la vacuité de leurs textes à grand renfort d'un vocabulaire pompeux et de formulations obscures. De plus, sa pensée n'est pas une pure abstraction déconnectée du réel. C'est pas un philosophe en chambre, Ogien. Ou en tout cas, pas au sens où on pourrait l'entendre habituellement. Au contraire, ses questionnements sont toujours ancrés dans la réalité concrète. Et à ce sujet, je vous renvoie notamment à un article que j'ai rédigé sur les dilemmes moraux et les expériences de pensée en philosophie morale. Enfin, durant toute sa vie, Ogien, il a su incarner justement sa philosophie morale. C'est bien question pour lui d'en faire quelque chose sur le plan pratique et pas seulement de se contenter d'édicter des principes abstraits ou des principes pour les autres. Alors, un des premiers principes de l'éthique minimale de Ogien, c'est la neutralité à l'égard des manières de vivre personnelles. Ça veut dire quoi? En fait, il faut entendre cela comme une réserve à l'égard des manières de vivre qui sont celles des autres. Une des bases de ce discours, c'est la distinction entre le mal que l'on peut se faire à soi-même et le mal, et il faut entendre par mal la nuisance, la violence, que l'on peut faire à autrui. Finalement, la philo d'Ogien, c'est une philo antipaternaliste qui correspond à l'idée qu'on ne peut pas condamner quelqu'un pour du tort qu'il ne ferait qu'à lui-même. Finalement, être neutre signifie de laisser vivre les gens comme ils l'entendent, tant qu'ils n'engendrent pas de souffrance autour d'eux. Et il n'est pas question d'être relativiste et de dire que à chacun sa morale. En fait, il y a un critère majeur pour distinguer ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ce critère est conséquentialiste. Il s'agit de dire que la moralité d'un acte peut être évaluée en fonction des conséquences, en termes de plaisir, en termes de souffrance, sur autrui. Et donc, tout n'est pas bon. Si cela crée du mal à autrui, ce n'est pas acceptable d'un point de vue moral. Mais en même temps, dès lors que ça ne crée pas de nuisance à autrui, mais en fait, laissons vivre les gens comme ils l'entendent. Soyons neutres à l'égard des manières de vivre personnelles, des modes de vie qui ne sont pas nécessairement les nôtres. Vient alors le deuxième principe du Ruvénogien, c'est ne pas nuire. Ne pas nuire et rien de plus. Alors je mettrai ce lien dans la description, un article de Roger Paul-Droit dans Le Monde en 2009 qui présente notamment cet aspect de l'éthique de Ogien. Et c'est pour moi une force de la pensée d'Ogien. Sa pensée, elle est conséquentialiste et minimaliste en morale. Ça veut dire quoi? Conséquentialiste parce qu'elle évalue la moralité de nos actes au regard de leurs conséquences palpables, concrètes, en termes de joie et de plaisir, et de souffrance, de nuisance. Minimaliste, parce qu'au lieu de prescrire un ensemble de règles pour avoir une vie bonne, il se contente de dire qu'être moral, c'est éviter de nuire à autrui. Et en fait, c'est déjà énorme. Dans la panique morale, Ruvénogien critique la propension à considérer de manière disproportionnée les faits comme des problèmes sur le plan moral. L'auteur explique combien des thématiques comme la sexualité, la pornographie, le clonage, par exemple, sont colorées d'un moralisme qui n'est pas fondé sur une pensée raisonnée. C'est ce que j'écris dans mon livre Nuances en 2022. En fait, pour Ogien, rechercher à ériger une manière de vivre en absolue morale, ça revient à amoindrir fortement les libertés individuelles. En fait, Ogien, il défend aussi sa philosophie morale dans une idée d'émanciper les individus, dans l'idée d'augmenter au maximum le respect de nos libertés individuelles. Et donc, en gros, lorsque l'on érige une manière de vivre en absolue morale, on crée un choix arbitraire, on choisit un mode de vie au détriment des autres. Et c'est généralement symptomatique de panique morale. Ces paniques morales, elles s'incarnent souvent dans des idéologies réactionnaires qui s'offusquent de l'altérité. En gros, les personnes qui ne font pas comme nous, qui ne font pas comme on a toujours fait, eh bien, ce sont des personnes qui agissent mal. Ça, c'est une panique morale. On se dit que les valeurs de la société sont en train de disparaître juste parce qu'il y a des personnes qui agissent différemment, alors que ces personnes ne font de mal à personne, peut-être juste à elles-mêmes. Alors, entre autres critiques, l'auteur épingle que les morales maximalistes, donc les morales qui finalement visent à régenter tous les aspects de notre mode de vie, ces morales maximalistes, elles inventent des crimes sans victimes. Elles sont oppressives en s'immisçant dans les choix de vie des gens. Et ce, d'une manière qui n'est pas équitable, parce que ces morales maximalistes, elles imposent aux uns ce que d'autres ont choisi. Autrement dit, Ogien, qu'est-ce qu'il propose? Il ne propose de ne juger moralement que ce qui nuit manifestement et volontairement aux autres. Il applique et argumente sa pensée à de nombreuses questions éthiques, comme la pornographie, la sexualité entre adultes consentants, les relations amoureuses, la consommation de drogue, etc. Concernant la liberté d'expression, par exemple, Ruvénogien, qui s'appuie sur les réflexions de John Stuart Mill, dit que la liberté d'expression implique qu'il faut distinguer aussi clairement que possible les offenses et les préjudices. Les offenses, ça provoque des désaccords, des émotions désagréables, je me sens offensé, mais pas de dommages concrets à des personnes spécifiques. En revanche, les préjudices peuvent causer de tels dommages. Là aussi, c'est ce que je développe dans « Nuance, la puissance du dialogue ». Dans Libé, Ogien poursuit « Défendre la pleine liberté d'offenser ne signifie pas justifier la liberté de causer des préjudices ». Ça, c'est pour moi une distinction fondamentale en philosophie morale relative à la liberté d'expression. C'est-à-dire que la liberté d'expression peut permettre, dans une certaine mesure, d'offenser. Elle peut tolérer que l'on offense autrui, mais pas de causer des préjudices à des parties de la population. J'ai distingué et développé deux dimensions de la philosophie morale de Hoggien. D'abord, la neutralité à l'égard des manières de vivre personnelles de chacun. Ensuite, la non-nuisance, le fait de ne pas nuire et rien de plus. Et enfin, un dernier principe, c'est de considérer que les individus, justement, doivent jouir d'une égale considération. Avoir une vie bonne et avoir une vie morale, ce n'est pas la même chose. Il faut une égale considération des individus. Alors, en quoi avoir une vie bonne et avoir une vie morale intervient dans cette distinction ? Donc, avoir une vie bonne, c'est avoir une vie heureuse, accomplie. Avoir une vie morale, c'est une vie qui est conforme à la morale. Or, d'une part, il n'y a pas une unanimité par rapport aux conceptions de la vie bonne. Nos priorités sont différentes, nous n'envisageons pas toutes et tous une vie accomplie de la même manière. Mais en plus, d'autre part, aucune conception de la vie bonne n'a de valeur morale en elle-même, c'est-à-dire indépendamment de ses conséquences sur autrui. C'est donc vain, et c'est même dommageable, Hoggien le développe dans plusieurs exemples, d'imposer une vision de la vie bonne, mais cela n'empêche pas de se mettre d'accord collectivement sur ce qui fait une vie morale. Pour ce faire, ce à partir de quoi il convient de juger, c'est la contribution possible au juste, les rapports équitables avec autrui où chacun est considéré de manière égale. Si on veut que la morale soit équitable, il faut mettre sur un pied d'égalité les conceptions personnelles de la vie bonne. En fait, un système moral, au niveau politique par exemple, se doit même d'être le garant de l'équité par rapport aux manières de vivre personnelles. Il faut que le système puisse permettre que chacun puisse vivre selon sa manière de vivre personnelle et qu'il n'y en ait pas qui soit valorisé par rapport à d'autres. D'où cette distinction entre avoir une vie bonne, finalement privilégier une manière de vivre personnelle qui est la mienne, et avoir une vie morale qui, là, ça peut être garanti par un cadre moral. Et c'est ce qu'on retrouve notamment dans le principe de laïcité, même si ce terme est très souvent galvaudé, il est très souvent mal utilisé, mal réapproprié par des politiciennes et politiciens, notamment peu scrupuleux, qui font leur beurre avec ce genre de thèse. Mais l'idée de la laïcité, c'est que l'État est le garant que chaque personne puisse vivre sa foi ou son absence de foi, notamment, comme elle l'entend. C'est dans cette mesure qu'il faut entendre le non-jugement à l'égard des modes de vie des individus. Le propos, c'est d'éviter de se formaliser ou de surmoraliser des modes de vie des gens tant que ces modes de vie ne nuisent pas à autrui. Dans son art de la clarté et de la synthèse, en fait, Hoggien résume avec des formulations variables les trois piliers de son éthique de la manière suivante. Il s'agit, en un, de la considération égale de chacun, qui correspond au fait d'accorder le même poids aux opinions et aux revendications de tous. En deux, la neutralité à l'égard des conceptions personnelles du bien, et où l'indifférence morale par rapport à soi-même, c'est-à-dire le fait de ne pas juger les manières de vivre des individus. Et enfin, en trois, la non-nuisance à autrui, c'est-à-dire l'idée de ne pas causer de tort à d'autres personnes qu'à soi-même. Je mentionne et je développe également des aspects de la philosophie de Ruven Hoggien dans mon ouvrage « Nuance la puissance du dialogue », également sur d'autres articles sur Philomédia que je vous mets dans la description. J'espère que cette introduction vous aura plu, vous aura donné envie d'aller plus loin. Je vous le recommande vivement. Je vous recommande vivement l'œuvre de Ruven Hoggien. Et comme promis, je vous mets des liens dans la description. Merci à vous et à bientôt.